Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Bonjour, bienvenue dans Mardi Politique. Nous recevons cette semaine Ségolène Royal, bonsoir.
Bonsoir.
Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, numéro 3 du gouvernement, ancienne candidate socialiste à la présidentielle, c'était en 2007. Ministre de l'écologie, l'année où la France accueille la COP21, le sommet mondial sur le climat, ce sera la fin de l'année. Année aussi de la transition énergétique que vous portez dans le gouvernement. Nous parlerons de tous ces sujets ainsi que des migrants en Méditerranée. Que peut faire la France et que peut faire l'Europe? Pour vous interroger à mes côtés, Laure Breton de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Et Roselyne Fèvre de France 24.
Bonsoir.
Alors avant d'en venir à ce lourd dossier de l'immigration, Ségolène Royal, une question sur le sort de Serge Atlaoui, ce Français accusé de trafic de drogue en Indonésie, condamné à mort. Tous ses recours ont été épuisés. Sa famille implore François Hollande de tout faire pour le sauver du peloton d'exécution. Que peut faire la France, Ségolène Royal?
La France peut faire des pressions diplomatiques, ce qui c'est le cas d'ailleurs, parce que le président de la République française a appelé le président indonésien, le ministre des Affaires étrangères a appelé l'ambassadeur, a fait savoir que la France, bien évidemment, était extrêmement attentive au sort de notre compatriote, et je crois que ces pressions vont continuer, puisque bien évidemment, nous, comme l'a dit Laurent Fabius, la France est contre la peine de mort, donc ne peut pas tolérer que l'un des siens subisse ce châtiment.
Laurent Fabius évoque des conséquences sur la relation bilatérale entre la France et l'Indonésie. Ça peut être quel type de conséquences?
C'est évident. Écoutez, je pense que ça fait partie de la diplomatie directe. Et bien évident que compte tenu de ses interventions au plus haut niveau, je pense que la France va obtenir satisfaction. En tout cas, il faut le souhaiter.
Ségolène Royal, invitée de Mardi Politique sur RFI. La Méditerranée est devenue un cimetière que la vieille Europe regarde, impuissant, 30 fois plus de morts depuis le début de l'année, 800 morts ce week-end, on en a beaucoup parlé, le naufrage d'un bateau de clandestins, la plus grave catastrophe. Un sommet européen extraordinaire est convoqué jeudi, il doit prendre normalement des mesures extraordinaires, c'est en tout cas ce que réclame François Hollande.
Si nous ne traitons pas les causes même de ce qui produit ces drames, la première c'est qu'il y a un État, la Libye, qui n'est plus un État, et donc qui ne contrôle rien, voire même qui laisse faire. Et j'appelle maintenant tous les Européens, et au-delà d'ailleurs, à régler les questions qui maintenant sont devenues insupportables. Insupportables sur le plan humanitaire, insupportables sur le plan politique.
Alors, selon le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, 35 000 migrants sont arrivés par bateau dans le sud de l'Europe depuis le début de l'année. On fait quoi? On les renvoie dans leur pays? On les accueille en Europe au risque de créer un appel d'air?
D'abord, c'est un drame humanitaire épouvantable qui se déroule sous nos yeux, à nos portes, d'une part. D'autre part, c'est toute la communauté internationale qui est interpellée face à ce drame et face aux conséquences et aux causes de ces migrations. C'est pas seulement l'Europe, certes l'Europe est en proximité, mais c'est toute la communauté internationale qui doit se saisir de la gravité de ce problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sans doute renforcer les questions de sécurité. Il n'y a pas de réponse simple à cette difficulté-là. Il n'y a pas de réponse simple. C'est la raison pour laquelle on se réjouit que ce sommet spécial sur ce sujet-là puisse se dérouler, puisse prendre un certain nombre de décisions, puisse échanger aussi. Et surtout, comment est-ce que l'Europe et la communauté internationale peuvent intervenir pour rétablir un état de droit dans les États qui ne sont plus des états de droit, et donc où les guerres civiles et les règlements de compte poussent des victimes malheureuses à prendre la mer dans des conditions abominables. La vraie raison, elle est là.
Roselyne Fèvre de France 24.
Alors faut-il laisser aux seuls Européens le fardeau à la fois humain, économique, politique? Est-ce qu'on peut pas réintégrer les pays du Sud? On pense à l'Algérie, à la Tunisie, au Maroc, pour intervenir en Méditerranée. Et pourquoi pas aussi une coopération militaire, comme ça s'est vu pour la piraterie en Somalie. Faudrait réintégrer tous ces pays-là?
Tous ces sujets doivent être mis sur la table, précisément, et ce n'est pas que l'Union européenne qui doit être mise autour de la table, bien
c'est
évidemment. Je le dis, c'est
la
communauté internationale. C'est un drame humanitaire mondial. C'est la question, je le redisais à l'instant et je le répète, de la disparition d'un État. d'un état de droit où l'anarchie la plus abominable règne, et où justement la seule façon pour des centaines d'hommes et de femmes de s'en sortir, de survivre, c'est de fuir. Donc ça ne peut pas durer. Il est évident que tous les moyens doivent être examinés pour savoir comment à la fois rétablir, aider un pays à rétablir son état de droit, rétablir l'ordre intérieur pour que les gens s'y retrouvent en sécurité.
Donc c'est pas seulement l'affaire de l'Europe, c'est aussi l'affaire de l'Afrique, c'est ça que vous dites?
C'est la communauté internationale, c'est l'affaire aussi des États-Unis d'Amérique, c'est l'affaire de toutes les grandes puissances, c'est l'affaire de la communauté internationale.
Alors vous évoquiez la Libye depuis effectivement la disparition de l'État libyen, l'effondrement de l'État libyen après, avec la chute de Kadhafi. La France, aux côtés des Britanniques, est intervenue sous l'égide des Nations Unies en 2011. Est-ce que finalement notre pays ne porte pas une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui?
Écoutez, une responsabilité, je vois pas vraiment. De toute façon, ce qu'il faut, c'est prendre la mesure de la situation actuelle, de voir quels sont les moyens qui peuvent être mis en place. Et je crois que j'aurais tout dit sur ce sujet, hein, pour vraiment laisser le temps à cette conférence internationale qui va se réunir, de prendre les bonnes décisions, de prendre la mesure de la gravité de la situation et de faire l'inventaire des moyens d'intervention que la communauté internationale peut mobiliser. Voilà, je crois que j'en ai assez dit sur ce sujet. Maintenant, il y a des procédures diplomatiques qui sont en mouvement, dont je n'ai pas la responsabilité d'ailleurs. Donc, je crois que les choses là se traitent aussi au niveau des chefs d'État et de gouvernement, vu la gravité de la situation. Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là qu'a lieu la réunion que vous évoquiez tout à l'heure.
Non, mais on connaît votre lien particulier justement avec l'Afrique. Et on vous a beaucoup entendu parler du développement des pays du Sud. Est-ce que vous dites la clé, c'est pas simplement l'Europe, c'est la communauté internationale? Est-ce que justement sur l'aide au développement ou sur le développement de ces pays, et je ne parle pas que ceux de la frontière méditerranéenne, je parle de l'Afrique en général, est-ce que c'est pas là que ça se joue? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de plus de solidarité, justement, avec les pays du Sud pour encourager leur développement?
Si, c'est évident. C'est-à-dire qu'on sait bien que c'est en comblant aussi les écarts de développement entre le Nord et le Sud que l'on mettra fin aux migrations de la misère. Mmh. Et de ce point de vue, la question climatique renforce les risques de toutes ces migrations, puisqu'on parle maintenant de migration climatique, c'est-à-dire de populations qui fuient l'avancée des déserts, qui suivent la raréfaction de l'eau potable, qui suivent la déforestation aussi. Et donc, dans l'échéance de la conférence climat, il y a, à mon avis, les solutions aussi pour régler le problème de la pauvreté et le problème du sous-développement, le problème de la misère en général. Parce que, avec le nouveau modèle énergétique, c'est-à-dire en permettant aux pays les plus pauvres d'accéder aux technologies, notamment aux technologies de l'énergie solaire, de l'énergie marine des mers, de la géothermie, on donnerait à ces pays qui sont privés de tout la capacité énergétique de concevoir leur développement. C'est la clé du développement, l'accès à l'énergie. Donc on voit aussi que beaucoup de retard a été pris. Regardez la faiblesse des installations photovoltaïques solaires en Afrique, par exemple. Ça fait un demi-siècle que l'on maîtrise le début des technologies, la géothermie. Ça fait très longtemps qu'on maîtrise les technologies de la géothermie. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus de transferts de technologies liées aux énergies renouvelables? Sans doute parce que pendant des années et des années, il y a eu des lobbies très puissants des énergies fossiles et qu'on a cherché à imposer à ces pays les modes de développement industriel qu'aujourd'hui nous remettons en cause. Alors, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la préparation de la conférence climat, les pays pauvres et les pays émergents sont extrêmement attentifs à la façon dont les pays industrialisés vont mettre en commun à la fois ce qu'on appelle le fonds vert et les aides financières au développement, et en même temps le transfert de technologies.
Précisément, vous parliez des lobbies, mais est-ce que le cœur du problème, tout simplement, c'est pas l'argent et l'alimentation de ce fonds vert? C'est l'un des objectifs de la COP21. Oui. Donc, je rappelle ce que c'est le fonds vert. Hein. Ça va être un fonds destiné à financer les énergies alternatives dans les pays pauvres. Dans les
pays économies
pauvres.
Décarbonées, d'aider les pays les plus pauvres à concevoir leur développement. Alors, à partir d'économies décarbonées.
Vous-même, on s'en souvient, vous avez milité pour les fours solaire au Sénégal.
Oui, il y a longtemps.
C'était lors de votre campagne de 2007.
Mais je l'ai fait en plus.
Vous l'avez fait ensuite.
J'ai mis en place des coopérations décentralisées. D'ailleurs, c'est une dimension qu'on oublie souvent, mais les coopérations décentralisées, très efficaces.
C'est-à-dire les régions françaises.
De région en région, voilà. De ville à ville. Et ma région était jumelée avec Fatih, qui est une région du Sénégal, où l'éclairage solaire est fait depuis très longtemps dans les villages, où les fours à basse consommation de bois, c'est-à-dire qu'ils consomment 7 fois moins de bois que les fours traditionnels, sont mis en place depuis très longtemps, où il y a des filières de développement d'élevage, notamment qui prennent appui sur les femmes et mises en place, où l'on fabrique même du fromage de chèvre, du chabichou du Sénégal et de Fatih, parce qu'il y a eu des échanges entre les éleveurs de ma région et les éleveurs de Fatih, et donc dans les coopérations décentralisées où pas un euro n'est détourné vers des structures qui consomment parfois plus des trois quarts de l'aide au développement, et puis où il y a quelques miettes seulement qui arrivent près des gens, là, non, on contrôle tout, ce sont des circuits courts, et on sait que l'argent n'est pas dépensé, il est très efficace. Donc vous voyez, ce qui se fait au plan local, je suis convaincue, pourrait se faire au plan mondial, dès lors qu'il y aurait de l'ingénierie financière intelligente, parce qu'il ne s'agit pas de faire des fonds dont on ne sait même pas où va l'argent.
Certains pays en développement déjà dénoncent le fonds vert, ils disent c'est une usine à gaz, on n'aura jamais accès à l'argent.
C'est difficile à dire, parce que de toute façon, là, il y a 10 milliards de dollars, donc d'euros, dans ce fonds, les structures responsables sont en train, justement, on a appelé leur attention là-dessus, de définir de quelle façon ce fonds allait être engagé. Et il doit être engagé sur des projets de développement. Et à côté de cela, il va y avoir une mobilisation de fonds privés, de fonds financiers, qui vont devoir s'investir dans ces nouveaux modes de développement. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'on se dit que si les flux financiers vont enfin vers des modèles de développement des pays les plus pauvres, ça prouve qu'ils croient absolument dans la réussite de ce qu'on appelle l'économie verte. C'est un nouveau paradigme, c'est un nouveau modèle de développement, et c'est de cela dont il faut se saisir. C'est à partir d'un drame, à partir d'un défi, à partir du drame du dérèglement climatique, nous avons la responsabilité d'en faire une chance et de croire que justement c'est un levier de lutte contre la pauvreté.
Vous dites les entreprises privées, les investisseurs privés vont devoir s'investir dans ce fonds vert, mais pour l'instant ils se font tirer l'oreille. La mécanique n'est pas enclenchée, il manque beaucoup d'argent dans la partie privée de ce fonds vert. Donc quelle est la parole politique qui peut justement déclencher cette solidarité? Vous dénoncez une forme d'égoïsme
Non, parce que je pense que c'est en train de se monter. Moi, j'ai bon espoir que ça se fasse, précisément, parce que d'ailleurs, il y a un sommet prochain qui a lieu au mois de mai à Paris, un sommet justement sur la finance et sur les entreprises, avec les entreprises qui vont travailler et définir quelle est l'ingénierie financière qui peut mettre en place des systèmes gagnant-gagnant pour le système financier, et gagnant pour des investissements éthiques liés au développement des pays les plus pauvres grâce aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie.
Les freins ou les lenteurs justement du monde économique à basculer dans ce nouveau paradigme que vous appelez
Mais je pense que c'est en train de bouger. Donc ce qu'il faut, c'est que la parole politique accélère les choses. C'est-à-dire qu'on ait vraiment la conviction qu'il y a une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. C'est une forme de révolution industrielle, révolution numérique aussi, révolution de l'économie décarbonée, le green business. Et donc il faut vraiment que cette dynamique-là s'enclenche et soit une réussite. Alors c'est un idéal, hein, parce qu'on peut se dire, ben non, finalement la finance c'est toujours quelque chose qui est perverti et qui n'arrivera jamais à allier finalement les intérêts de la finance avec les intérêts du développement. Et si justement pour la première fois dans l'histoire du monde, justement tout d'un coup, parce qu'il y a des enjeux de développement économique, des enjeux de création d'activités et d'emplois, des enjeux d'intérêt pour les filières financières et les filières industrielles qui correspondaient aussi. Si, c'est ce que je fais en France d'ailleurs. J'essaie de montrer aux entreprises, et je crois y parvenir, que le green business, que la croissance verte, c'est intéressant pour les entreprises parce qu'elles peuvent innover, elles peuvent créer, elles peuvent faire des bénéfices, elles peuvent créer des emplois, et en même temps, ça correspond à notre exigence de construction d'une industrie décarbonée. Alors, c'est du gagnant-gagnant.
On en parlera un peu plus tard de votre action en France. Je voulais qu'on reste sur la COP21, donc ce sommet mondial pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce sera fin novembre à Paris. On espère un accord contraignant, 3 ans après l'échec de Copenhague. La route est longue, et parsemé d'obstacles. C'est ce que disait hier à l'Élysée François Hollande dans l'écoute.
Chacun pense que ce sera finalement une réunion où nous trouverons facilement un accord. Je ne le pense pas. Plus j'avance dans la préparation de cette conférence, plus je regarde les obstacles.
Quels sont ces obstacles dont parle François Hollande ?
D'abord, il a prononcé cette intervention à l'Élysée où étaient réunis les 500 territoires à énergie positive, dont 216 qui ont déjà des contrats prêts à signer à travers toute la France, dans leur grande diversité. Suite à un appel à projet que j'ai lancé pour appliquer la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a une dynamique des territoires qui s'enclenche.
Ça, c'est
et
votre rôle dans la COP21, dans le gouvernement, c'est ça la mobilisation de la société civile.
Oui, c'est la mobilisation de la société civile, c'est l'exemplarité de la France et c'est la mobilisation de la position européenne. Voilà quel est mon rôle. Et donc, pour que la France soit dans une situation d'excellence environnementale, non seulement il y a la loi de transition énergétique qui sera une des plus avancées d'Europe et même au-delà, parce que même aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas une loi aussi avant-gardiste que celle-ci.
Ils ont le gaz de schiste.
Et en même temps, oui, et en même temps, c'est la mise en mouvement des entreprises et des territoires. Vous voyez, ce sont les trois leviers. Et quand François Hollande dit, effectivement, je vois les obstacles, que veut-il dire ? Il veut dire d'abord que, premièrement, sur les pays émergents, il y a un doute, justement, sur la volonté des pays développés de transférer leur technologie verte, d'une part, et sur les pays les plus pauvres aussi, il y a un doute sur la façon dont on peut sortir de la pauvreté tout en poursuivant un objectif de réduction du réchauffement climatique. C'est quelque chose qui leur apparaît très loin. Quand on n'a pas à manger, quand on n'a pas d'énergie pendant toute la journée, on doute à la fois du discours sur les économies d'énergie, alors que 3/4 de la population dans les pays pauvres n'ont même pas accès à l'énergie. Et donc, il faut bien être très au clair sur les problématiques conjointes aux pays riches comme aux pays pauvres.
Par exemple, sur l'Inde, Madame Royal, l'Inde ne veut pas être entravée dans sa croissance et dans son développement. Et elle ne veut pas non plus céder aux pressions. Comment on fait pour les amadouer, on va dire ? Parce qu'en même temps, on leur vend des rafales, donc il faut y aller, j'imagine, avec doigté. Comment on fait pour qu'ils cèdent un petit peu de terrain ?
Alors justement, le Premier ministre Modi est venu récemment à Paris, donc on a pu avoir cet échange sur la situation de l'Inde et la façon dont elle allait pouvoir aider à la réussite de la conférence climat. Il s'est engagé à aider la réussite de la conférence climat et en particulier, il a lancé dans son propre pays des investissements très très forts sur le photovoltaïque en particulier. D'ailleurs, il y a des entreprises françaises. Moi-même, je suis allée récemment en Inde. J'ai eu l'occasion d'inaugurer au Punjab une centrale photovoltaïque construite par Solar Direct, une entreprise que je connais. Donc les choses sont en train de bouger. Et en même temps, l'Inde développe un mix énergétique qui ressemble au mix énergétique français, puisqu'ils ont aussi comme objectif de multiplier par 6 le potentiel de production d'électricité nucléaire. Donc il y a à la fois un investissement très fort sur le renouvelable et très fort sur le nucléaire avec un projet de 100 smart cities en Inde, 100 villes durables sur lesquelles les entreprises françaises ont été appelées à coopérer. Donc moi j'ai bon espoir que l'Inde, qui en même temps ne veut pas, vous avez raison, se laisser donner des leçons vues de l'extérieur, alors que 70% de la population n'a pas accès à l'électricité tout au long de la journée et de la nuit. Donc c'est vrai que les discours trop arrogants sont des discours dangereux, et la France justement a pris conscience de la nécessité de ne pas être dans des postures arrogantes, mais de faciliter au contraire des convergences avec des niveaux de développement très différents et des modèles énergétiques très différents.
C'est Golène Royon. On a aussi le sentiment que François Hollande a pris conscience assez récemment, il nous l'avait dit, de la menace climatique pour la planète. Il n'avait pas la fibre écologiste jusqu'à présent. Comment vous expliquez cette évolution chez lui ?
D'abord, par l'échéance de la conférence climat, et donc par le fait que, avec tous les contacts internationaux qu'il peut avoir sur ce sujet-là, il a réalisé que c'était un des enjeux majeurs du siècle. Et c'est non seulement un enjeu majeur du siècle, mais c'est en même temps une opportunité de sortie de crise. Et c'est vrai sur le territoire national comme au niveau international.
Merci Ségolène Royal. On va marquer une courte pause, le temps de prendre connaissance des dernières informations et on se retrouve juste après.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique avec Ségolène Royal, la ministre de l'écologie. Nous sommes ensemble encore pendant 20 minutes avec Roselyne Fèvre de France 24 et Laure Breton de Libération. Alors, ministre de l'écologie, Ségolène Royal, vous l'étiez déjà il y a un peu plus de 20 ans dans le dernier gouvernement de gauche de François Mitterrand.
J'ai participé au premier sommet de la planète, à Rio d'ailleurs.
Et vous avez retrouvé donc ce poste il y a tout juste un an dans le gouvernement Valls. Vous faites entendre d'ailleurs votre voix dans ce gouvernement. On entend aussi vos réserves sur la circulation alternée, lors des pics de pollution, votre soutien aussi à la filière nucléaire. Comment vous définiriez votre vision de l'écologie ?
Une écologie positive, une écologie qui débouche sur la croissance verte. Certains écologistes ne voulaient même pas entendre parler du mot de croissance, vous voulez de la décroissance, non, moi je veux de la croissance, mais de la croissance verte, la croissance décarbonée, la croissance du bien-être, et une écologie qui est à la fois locale et globale.
Alors sur le nucléaire, c'est dans votre loi sur la transition énergétique, un engagement de François Hollande, l'engagement de campagne, ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'énergie en France. En 2025, est-ce que ce sera tenu? Est-ce que ce sera dans la loi? Parce que les sénateurs s'y sont opposés.
Voilà.
Alors, le texte revient à l'Assemblée.
Moi, il y a eu un très bon débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Après, il y a des convictions que moi je respecte tout à fait. Et ce qu'on disait impossible à faire, à savoir, on me disait que c'était impossible de faire une loi sur la transition énergétique parce qu'il y avait trop d'opposition radicale entre les anti-nucléaires, les pro-nucléaires, etc. Et ce que j'ai fait pour essayer de faire émerger une vérité stable et qui va dans l'intérêt général du pays, c'est de ne pas opposer les énergies les unes aux autres. On a besoin à la fois de nucléaire, parce que c'est notre socle du modèle énergétique, ce qui nous donne la sécurité énergétique, et en même temps, on a besoin de monter en puissance sur le renouvelable, tout en faisant des économies d'énergie. Et je pense que là-dessus, sur ce principe-là, tout le monde s'est retrouvé, y compris sur la diminution de la part du nucléaire. La droite a voté aussi la diminution de la part du nucléaire. Là où elle a contesté les choses, c'est sur l'échéance dans le temps, parce qu'elle lui paraissait trop court, trop tôt à l'horizon 2025. Et donc, il y a une petite divergence.
Vous dites que ce sera tenu 2025.
On va mettre 2025. Et en même temps, on est pragmatique. C'est-à-dire, tous les ans, on va regarder la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, c'est ça que j'avais dit aux députés UMP et UD. J'aurais dit, mais de toute façon, gardons l'horizon de 2025, puisqu'on aura l'occasion de redébattre régulièrement au Parlement pour voir où on en est de la montée en puissance du renouvelable.
Alors, sur le nucléaire, on vous a entendu, on connaît vos convictions écologistes anciennes, donc on peut mesurer une certaine contradiction. Est-ce que, finalement, s'il n'y avait aucun emploi à la clé, si la France ne produisait aucune centrale nucléaire, est-ce que vous tiendriez exactement le même discours sur le nucléaire?
Si on n'avait pas de nucléaire, vous voulez dire?
Oui, si la France, s'il n'y avait pas... Est-ce qu'en défendant le nucléaire, vous défendez aussi une filière française?
Oui,
et pas seulement
une filière française.
Et pas seulement des convictions écologiques.
Défendez des emplois, c'est ce que veut dire Florent.
Oui, bien sûr, je défends des emplois, oui. Je défends des emplois, je défends un savoir-faire français, je défends la compétitivité internationale, puisqu'on vend aussi un savoir-faire. Et en même temps, nos grands énergéticiens qui spécialisent dans le nucléaire investissent aussi dans le renouvelable, de même que des grands producteurs de pétrole investissent aussi dans le renouvelable. Donc les choses sont en train d'évoluer. Et moi, ma responsabilité, c'est de faire évoluer les choses tout en gardant la compétitivité de nos filières industrielles.
Alors vous parliez du savoir-faire français, mais on a vu qu'il y avait une grave anomalie donc sur les cuves pour l'EPR de Flamanville, donc fabriqué par Areva. Je vous ai entendu minimiser en quelque sorte ce problème de fabrication, mais dans ce cas, pourquoi l'autorité de sécurité, pourquoi elle en a fait une espèce de scénarisation mondiale où tout le monde s'affole, les Chinois. C'est grave ou c'est pas grave?
Elle parle d'anomalie sérieuse, voire très sérieuse.
Anomalie sérieuse, voire très sérieuse. Ce qu'il faut voir, c'est que contrairement à d'autres pays, la France a mis en place un système complètement transparent. Et l'autorité de sûreté nucléaire rend public ses rapports. Donc c'est quand même extraordinaire. Ça n'existe nulle part ailleurs. Mmh. À partir de là, chaque fois que l'on dit que la sûreté est bien préservée, il faut le croire aussi. Donc le fait de dire, lorsqu'il y a un problème auquel il faut remédier, c'est ce qui va être fait, puisque dans tout processus industriel complexe, en cours de processus, il peut y avoir en effet un certain nombre d'anomalies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est en train de se passer? C'est que, premièrement, l'autorité de sûreté nucléaire est parfaitement compétente, exerce ses responsabilités. Deuxièmement, c'est qu'il y a une transparence d'information qui doit sécuriser les citoyens, puisque le jour où les contrôles qui seront faits seront déclarés comme conformes par l'autorité de sûreté nucléaire, ça voudra dire que toutes les garanties sont apportées. Moi, je me réjouis de cette transparence. Et d'ailleurs, dans la loi de transition énergétique, j'ai renforcé le pouvoir de l'autorité de sûreté nucléaire.
Et d'ailleurs, avant de laisser la parole à Laure Breton, Areva annonce à l'instant qu'il y aura une expertise indépendante sur la fabrication de cette cuve, donc qui semble poser problème à Flamanville. Laure Breton.
Vous avez en quelque sorte fait un lien entre justement l'ouverture de Flamanville et la fermeture de la centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne centrale de France et que François Hollande avait promis de fermer avant la fin de son quinquennat. Mmh. Est-ce que les retards qu'on est en train de noter ou qui vont arriver sur la construction de Flamanville finalement font tomber cette promesse, ou en tout cas...
Non.
Vous pensez pouvoir fermer Fessenheim avant la fin
du quinquennat? Je pense d'abord que tous ces débats prennent une place disproportionnée par rapport au cœur du sujet qu'est la transition énergétique. Et au cœur de cette transition énergétique, il y a l'investissement massif dont on a besoin dans le bâtiment et dans les logements, d'où le crédit d'impôt sur la transition énergétique, et dont les Français doivent se saisir, d'où la nouvelle génération des bâtiments qui sont des bâtiments énergie passive ou énergie positive.
C'est celle qu'on n'utilise pas.
Oui, c'est ça. Et en même temps, ça permet d'innover et de développer des technologies de la construction sur lesquelles la France doit être très... Pour les gens... Je vous réponds que la transition énergétique, c'est pas ces débats, ça y est, qu'on a évoqué 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, Fessenheim, voilà, il y a un engagement qui est pris sur Fessenheim, l'engagement, il n'y a aucune raison de bouger l'engagement sur Fessenheim.
Donc
pour l'instant.
D'ici 2017, Fessenheim sera fermé.
C'est ce qui a été dit.
Et c'est ce que vous nous dites ce soir.
Et ben, c'est ce qui sera fait, oui. C'est ce qui sera fait quand il y aura l'ouverture des deux réacteurs de Flamanville. Puisque vous voyez, comme la loi va voter le plafonnement, dès que les deux réacteurs de Flamanville seront ouverts, deux autres réacteurs doivent fermer. Le président de la République a dit que ce serait Fessenheim.
Sur les cuves quand même, pour en reprendre sur le sujet quand même qui peut, ça peut frôler la catastrophe industrielle. Est-ce que il faut refaire ces cuves ou à votre avis
C'est l'expertise indépendante qui va le dire. Je ne suis pas dans les cuves, moi, actuellement. Je suis dans votre studio. Je ne suis pas en train de vérifier les cuves. Je peux le faire, si vous me le demandez.
Non, mais bon...
Il vaut mieux recourir à une entreprise spécialisée.
On vous a aussi beaucoup entendu, Ségolène Royal, sur les dossiers autoroutes. Il y a une initiative de Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'écologie sous Jacques Chirac. Elle avait soutenu François Hollande en 2012. Elle lance une action pour demander aux sociétés d'autoroutes de rembourser 20% sur les autoroutes qui sont totalement amorties. Est-ce que vous la soutenez dans cette démarche?
Qu'il y ait des initiatives associatives, moi ça ne me choque pas du tout. De toute façon, maintenant elles sont autorisées par la loi, puisque c'est ce qu'on appelle les class action. Donc après, il y a des contrats qui sont signés avec ces sociétés d'autoroutes, des concessions qui sont signées avec ces sociétés d'autoroutes, et que toute la transparence soit faite sur ces concessions, qui est à la fois des débats parlementaires, des débats citoyens, c'est pas moi qui vais m'en plaindre.
Laure Breton, Libération.
Vous avez annoncé avant tout le monde le gel des péages d'autoroutes,
oui,
qui finalement a été fait.
Mmh.
Comment on va financer ce gel des péages, puisque les sociétés d'autoroutes, elles, réclament quand même réclamait une hausse de 0,57% des péages pendant l'année 2015. Comment on ne risque pas comment il n'y a pas de risque commercial avec les sociétés d'autoroutes? Comment on finance cette promesse de ne pas augmenter les péages?
Parce qu'elles ont signé l'accord.
On n'est pas obligé de bouger budgétairement pour pouvoir...
Non. Elles ont signé l'accord, plus un investissement dans les travaux autoroutiers, plus un investissement dans le fonds qui permet aussi des travaux routiers cette fois-ci. Donc c'est un accord qui a été fait avec les sociétés d'autoroutes.
Et les péages gratuits le week-end, c'était réaliste ?
Moi, je pense qu'il faut faire des offres commerciales. C'est ça que j'avais dit. Vous voyez, tout le monde s'était gaussé, s'était moqué. N'empêche que ça a fait bouger les choses aussi à un moment. Donc les sociétés d'autoroutes vont faire des offres commerciales, c'est-à-dire des tarifs préférentiels quand il y aura du covoiturage, des plateformes obligatoires de covoiturage qui sont d'ailleurs prévues dans la loi de transition énergétique, pourquoi pas des tarifs préférentiels pour les voitures propres et pour les voitures électriques. Donc vous voyez, il y a toujours des offres commerciales à faire par cette entreprise comme pour toute entreprise.
Ségolène Royal, vos prises de position lors des pics de pollution, en particulier à Paris, sur la circulation alternée, ont quelque peu ennuyé, agacé les écologistes qui, globalement, ont quand même une bonne opinion de votre action à la tête du ministère de l'écologie. Est-ce que de votre côté, vous souhaitez qu'ils reviennent au gouvernement ?
Ça, c'est pas à moi de le dire. D'abord, c'est à eux de se mettre d'accord entre eux, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et puis après, moi, je ne fais pas les remaniements gouvernementaux.
Non, mais vous avez une opinion ?
Non, je n'ai pas d'opinion à avoir. Je ne fais pas les remaniements gouvernementaux.
Non, donc, la nécessité pour 2017, même peut-être pour les élections régionales de décembre, d'avoir une gauche plus unie et de ne pas avoir des partis qui prendraient le risque, ou en tout cas feraient courir un risque au Parti Socialiste en présentant plein de candidats. Est-ce que ça vous parle ?
Non, mais ce que vous dites là prouve que ça fait partie après d'un accord global. C'est pas juste rentrer ou pas rentrer dans un gouvernement.
Non, justement, c'est plus large qu'un remaniement.
Quel est l'accord global qui fait qu'une force politique rentre dans un gouvernement, y compris par rapport aux échéances électorales futures ? Puisque là, au moment des élections des départementales, beaucoup de territoires ont été perdus à cause, justement, de la dispersion, des votes et des candidatures distinctes d'Europe Écologie Les Verts. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que les règles du jeu soient claires pour permettre un rassemblement de forces politiques. Mais maintenant, ça dépend d'eux aussi, puisque eux ne sont pas d'accord entre eux.
Voilà.
Mais de toute façon, je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup travaillé.
Il y a deux partis écologistes.
Moi, c'est leur problème. Moi, j'ai pas de commentaire à faire sur ce qui se passe dans un autre parti. Ce que je veux dire, c'est que les parlementaires d'Europe Écologie Les Verts, au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, ont très bien travaillé pour la loi de transition énergétique comme pour la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. C'était très constructif. Il y a eu beaucoup de propositions intéressantes que j'ai reprises dans le texte, sur lesquelles j'ai émis des avis favorables. Donc voilà, on est aussi dans la co-construction, mais ça a été vrai aussi pour certains parlementaires UMP et centristes qui ont fait des propositions intelligentes, intéressantes, que j'ai aussi intégrées dans le texte. Donc je crois que sur ces sujets-là, ce que je souhaite, moi, c'est dépolitiser au maximum. Parce que je veux que la France s'engage dans un modèle énergétique stable. Et que les entreprises de ce secteur puissent investir en se disant, au gré des alternances, il n'y aura pas un changement des règles du jeu. C'est ça qui est important pour moi.
Alors, Ségolène Royal, invitée de Mardi Politique, on parle un peu de politique quand même.
On a parlé de
politique partisane. On a parlé des écologistes, parlons maintenant des communistes avec les propos de François Hollande dimanche sur Canal+. Ils ont suscité la polémique. Le président de la République a établi à son tour un parallèle entre le Front National et le Parti Communiste.
Madame Le Pen parle comme un tract du Parti Communiste des années 70. Sauf que le Parti Communiste, il ne demandait pas qu'on chasse les étrangers, il ne demandait pas qu'on fasse la chasse aux pauvres, parce que même les pauvres finissent par penser qu'il y a plus pauvres qu'eux, qui leur prennent le peu qu'ils ont. Le Parti Communiste avait encore un certain nombre de principes. Là, en l'occurrence, Madame Le Pen, elle parle comme le Parti Communiste des années 70, avec aussi les mêmes références que son propre père.
C'est une maladresse, c'est...
Je sais pas, je veux pas commenter.
François Hollande a fait une croix sur le vote communiste.
Mais non, les années 70, ça veut dire tout simplement que c'était des propos un peu idéologiques, qui trouvaient des solutions miracles. C'est tout ce que ça veut dire.
Mais au moment où on essaie de rassembler la gauche, malvenu.
Non, parce que regardez... La deuxième partie de son commentaire donne bien un éclairage.
Donc, si vous isolez, retenu que la première partie.
Ça fait partie de la politique politicienne. Il faut tenir compte quand on commente un propos, de la globalité du propos.
Nous sommes le 21 avril aujourd'hui, Ségolène Royal. C'est un triste c'est anniversaire, un triste souvenir pour les socialistes. C'était l'élimination de Lionel Jospin le soir du premier tour de la présidentielle en 2002. Est-ce que ce même scénario en 2017, on commence à l'envisager ?
Moi, je ne me préoccupe pas de 2017. Je me préoccupe de deux choses. D'abord, d'être à ma tâche, de travailler le plus possible pour changer le plus possible les choses dans le domaine dont j'ai la responsabilité pour accélérer la transition énergétique et l'émergence d'un nouveau modèle de développement, d'une part. Et d'autre part, je me préoccupe du futur, c'est-à-dire de l'horizon 2020-2030 et de la fin du siècle. Et c'est assez rare en politique de se préoccuper de ce qui va se passer après nous. Et pourtant, c'est aujourd'hui qu'on décide de ce qui va se passer à la fin du siècle en termes de dérèglement climatique, de protection de la nature, de protection des paysages, de reconquête de la biodiversité, parce que c'est un travail de très longue haleine.
Ce que vous nous dites, au fond, c'est que c'est moins important de gagner les élections que de laisser une trace dans l'histoire.
Une trace dans l'histoire au sens où d'utiliser tous les moyens que l'on a aujourd'hui pour faire en sorte que la planète vive mieux. Parce que la planète, sont les sciences de la vie, c'est les relations de l'être humain avec son milieu. Donc c'est un sujet central, et on a une capacité d'agir. Et chaque citoyen a la capacité d'agir. Pas que les politiques qui peuvent agir, les citoyens ont la capacité d'influencer sur ce que sera la planète pour les générations futures.
Rosine Fèvre.
Alors, il y a quelques instants, vous regrettiez la politique partisane, d'ailleurs, en reconnaissant que certains, à droite aussi, pouvaient avoir des idées intéressantes, dont vous vous nourrissez d'ailleurs, et vous venez de parler de nouveaux modèles. Est-ce que, parfois, vous vous dites la politique, c'est assez insupportable en France, avec donc cette bataille permanente, sans pouvoir dégager des majorités d'idées pour que le pays avance. Est-ce que là, il faudrait penser à un nouveau modèle ? Je pense à l'idée d'une coalition, mais pour ça, il faudrait peut-être changer le mode de scrutin. Est-ce que vous avez réfléchi parfois aussi à ce mouvement de balancier dont les Français, dans le fond, n'en peuvent plus, de ces batailles politiques assez stériles qui font qu'il y a une sorte d'impuissance politique ? Que pouvons-nous changer ? Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi à tout ça en 2007 ? Est-ce que vous avez quelques réflexions à nous livrer ?
Oui, je pense en effet que la gravité de la crise économique, de la crise d'identité, de la crise climatique appelle des convergences nouvelles. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi au niveau mondial, parce que regardez, il y a des chefs d'État et de gouvernement qui ne sont pas du tout sur les mêmes options idéologiques, qui ont commencé à comprendre qu'il fallait travailler ensemble pour sauver la planète, et donc pour sauver ceux qui habitent sur cette planète, et pour régler des problèmes majeurs auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, et qu'en plus, les solutions qu'on va apporter à ces problèmes majeurs sont des problèmes clés pour la question de la sécurité au niveau planétaire. Je l'ai dit tout à l'heure avec les menaces sur les migrations de la misère et les migrations climatiques, et qu'en même temps, ce sont des solutions pour sortir de tous ces problèmes d'insécurité, de pauvreté, de flux de population, etc. Et ça, je trouve que c'est quand même un élément nouveau. Et donc, sur la France, je pense aussi que nous avons la capacité de rassembler sur ces sujets-là. J'en veux pour preuve que, justement, à la réunion à la présidence de la République que vous évoquiez, où il y a eu les 500 territoires à énergie positive, eh bien, il y avait des responsables politiques de l'opposition, de l'UMP, de l'UDI, qui sont venus témoigner de la transition énergétique sur leur territoire. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai veillé, d'ailleurs, à cette diversité politique pour pouvoir construire, justement, des majorités de projets.
Une dernière question, Ségolène Royal, avant de se quitter. Vous êtes numéro 3 du gouvernement, ancienne candidate à la présidentielle. Vous avez une histoire commune aussi avec François Hollande. Est-ce que ça vous donne un statut à part dans ce gouvernement et finalement vous faites avancer vos dossiers plus facilement que les autres ministres ? Parce que vous êtes Ségolène Royal.
Un statut à part ? Non, je ne dirais pas cela. Je dirais simplement que cette longue expérience politique, à la fois nationale et locale, et ma volonté farouche que j'ai toujours eue dans ma vie politique depuis ma première campagne électorale, qui s'appelait déjà la morale de l'action, c'est-à-dire mon souci permanent, mais même tous les jours, de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait avancer aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai résolu comme problème ? C'est ma marque de fabrique politique.
Merci Ségolène Royal. C'est la fin de Mardi Politique. Très bonne soirée à tous. We'll be right back.